Les titres du journal vous sont présentés par Antoine Samoyau. Bonjour Antoine.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. 40 vélos volés recherchent leur propriétaire à la DSP. Les policiers lancent un appel pour permettre aux victimes de vols de vélos de venir récupérer leurs biens. Attention, il faudra justifier que le vélo vous appartient. La semaine de l'innovation s'achève aujourd'hui. On vous parle pour l'occasion de Météo France qui présente ses nouveaux équipements. Et vous l'entendrez, Météo France ambitionne maintenant de prévoir aussi les épidémies. Nous ferons un tour au théâtre en deuxième partie de journal. Les scolaires ont découvert hier le Cercle des Illusionnistes au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Effet garanti, le jeune public est ressorti envoûté. On en parle tout à l'heure.
Et on démarre avec l'actualité judiciaire et le remboursement des salaires des emplois fictifs qui attendra encore plusieurs mois.
L'affaire des emplois fictifs, vous vous en souvenez, s'est achevée en 2014 sur le volet pénal. Gaston Flosse et 17 autres personnes ont été condamnées définitivement. L'ancien président a été démis de ses fonctions. Mais aujourd'hui, reste encore à régler la question du remboursement des salaires versés pendant toutes ces années à ces emplois fictifs. Les fameux intérêts civils demandés par le pays et par l'Assemblée. Hier, les avocats devaient enfin plaider devant la cour d'appel. Et pourtant, un nouveau renvoi a été accordé. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le pays a déposé de nouvelles conclusions qui ont revu à la baisse les demandes de remboursement. De plus d'un milliard de francs, le pays est passé aujourd'hui à 441 millions pour rester strictement dans la période retenue au pénal par la cour d'appel. Écoutez les précisions de l'avocat du pays, maître François Mestre, au micro de Vaïté Ourari Pambrin.
Les demandes principales concernaient des périodes qui s'étendaient au-delà des périodes visées par l'arrêt, mais pour lesquelles la Polynésie considérait qu'il y avait un lien entre le préjudice qu'elle subissait et les infractions commises. Néanmoins, on allait quand même au-delà des périodes strictement visées par l'arrêt. Ces demandes principales sont abandonnées et nous avons maintenu, c'est pour ça que je dis qu'elles existaient, les demandes qui étaient formées subsidiairement, où là, on arrête finalement l'évaluation du préjudice aux seules dates qui sont données par l'arrêt de la Cour. Et on aboutit à une somme d'environ 441 millions au titre du préjudice matériel.
Et plus des 1 milliard dont vous parliez à l'époque.
Voilà, c'est ça.
Et à ces 441 millions, il faut également ajouter 80 millions de francs de préjudice d'image demandés par la Polynésie, mais aussi les 100 à 200 millions de francs demandés par l'Assemblée. L'audience, en tout cas, elle a été renvoyée au 4 mai 2017 pour permettre aux avocats de la Défense de prendre en compte et de répondre à ce nouveau chiffrage du pays. Mais le 4 mai sera la dernière date, a prévenu le président de la Cour d'appel. Les avocats ont jusqu'au 23 mars pour déposer leur dernière conclusion.
Justice également, mais côté pratique, 40 vélos volés attendent leur propriétaire à la DSP.
Une quarantaine de vélos retrouvés par les policiers chez les receleurs sont actuellement entreposés au commissariat de police à Papeete, certains depuis plus d'un an, et la DSP lance donc un appel aux victimes de vols de vélos ces dernières années pour qu'ils puissent vérifier s'il ne s'agit pas de leur engin. Et pour mettre Etofa, policier à la DSP, les propriétaires peuvent venir chercher leur vélo même si aucune plainte n'a été déposée. Il faudra au moins présenter un justificatif ou même une simple photo du vélo. Et dépêchez-vous, si aucun propriétaire ne se manifeste, ces vélos seront détruits.
Parfois, il arrive que les propriétaires des vélo n'est pas déposé plainte parce qu'ils se disent qu'ils ne retrouveront jamais leur vélo. En fait.
Si quelqu'un reconnaît son vélo, comment est-ce qu'il doit faire alors concrètement?
Il faut qu'il puisse se présenter un justificatif, une facture avec une pièce d'identité et donc de passer à l'accueil du commissariat et de me demander que je me tiens à leur disposition du lundi au vendredi 7h30 midi, 13h30, 17h.
Et si personne ne vient les récupérer, qu'est-ce qui va se passer?
Ou les enquêteurs qui sont en charge du dossier feront une demande au parquet pour destruction du vélo, ce qui serait dommage quand même.
Patrito fait interrogé par Vaïté Ourari Pambrin.
La DSP qui a également inauguré son nouveau dojo ce matin.
Les policiers qui pourront désormais s'entraîner aux techniques d'intervention puisqu'une salle de 30 mètres carrés est désormais à leur disposition au commissariat. Avant cette salle, les policiers s'entraînaient sur le bitume, à même le sol, dans le parking de la DSP. C'est ce que nous explique Tapale Flavien, gardien de la paix à la DSP.
C'était pas évident parce que en pleine journée il fait chaud, ça fait mal. Puis voilà, faisait avec les moyens du bord. Donc aujourd'hui on est content d'avoir cette salle et je pense que on va l'utiliser à bon escient. Et c'est une nécessité. Hein. En tant que force de l'ordre, il faut qu'on soit à même à intervenir et puis il faut qu'on soit préparé. C'est la préparation, c'est le plus important comme tout sport, comme toute discipline. Hein. Quand on est préparé, ben on évite les blessures et les mauvais coups. Hein. Voilà.
Très très physique aussi. Hein.
Physique mais technique, surtout technique. Et c'est la technicité qu'on travaille le plus.
Et pour le chef de la DSP, François Perrault, cette salle était une nécessité pour permettre à ces hommes d'être toujours plus performants lors des interventions.
Ce qui permet de maîtriser rapidement quelqu'un sans dégâts, puisque notre objectif, c'est d'arriver à maîtriser des personnes sans porter atteinte à leur intégrité physique. Et puis, on a des fois des problèmes sur la voie publique, des contestations d'intervention et autres. Donc, il faut vraiment qu'on travaille dans le respect des normes pour qu'on puisse, répondre, bah oui, il a fait ça, mais ça rentre dans le cadre des techniques.
François Perrault et Tabaré Flavien également interrogés au micro de Vaïté Ourari Pambrin.
On parle des innovations de Météo France à présent et ça ne concerne pas que les prévisions du temps.
Journée porte ouverte hier à Météo France Polynésie qui célébrait à son tour la semaine de l'innovation publique. Météo France qui renouvelle une partie de ses équipements et la prochaine mise à jour consiste en l'installation d'une station automatisée de radiosondage. C'est de là que seront envoyés les ballons sondes dans l'atmosphère. Un équipement utilisé pour recueillir de nombreux paramètres indispensables aux prévisions tels que la pression atmosphérique, la température, l'humidité ou encore le sens du vent. Les explications du responsable de l'observation météorologique en Polynésie, Yvan Lemaître.
Ce qui va changer, c'est surtout une optimisation des ressources humaines qui va permettre de décaler le travail de nuit en travail de journée et surtout d'augmenter la technicité des agents de maintenance. D'un autre côté, cette automatisation va permettre d'avoir une fréquence adaptée des observations. C'est-à-dire qu'en cas de cyclone, on peut appuyer sur un bouton pour faire un radiosondage comme on veut. Ça permettra d'avoir une prévision immédiate plus renforcée, beaucoup plus précise et sans rajout de personnel.
La nouvelle station qui sera également équipée d'une station de production d'hydrogène nécessaire pour gonfler les ballons sondes. Des ballons qui peuvent aujourd'hui servir pour la météo, mais aussi pour la santé publique. C'est une autre évolution sur laquelle travaille Météo France en partenariat avec l'Institut Louis Mallardé. Les explications de Victoire Laurent, responsable de la division études et climatologie de Météo France.
On va faire un peu à l'instar de ce qui existe en Nouvelle-Calédonie. C'est un modèle de prise de décision et notamment d'annonce de risque d'une épidémie de dengue. Donc pour cela, il faut connaître l'environnement du moustique qui lui permet de proliférer donc en termes de température et d'humidité. Une fois qu'on connaît ces seuils, on construit le modèle. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours depuis un moment avec l'Institut Mallardé. Nous, on a fait notre partie CLIM, ils font leur partie vectorielle. Et donc, en partenariat avec les deux données, on essaie de construire ce modèle.
Des propos retenus, recueillis, on y arrive par Cédric Vax. C'est un moustique qui m'a embêté, en fait. C'est pour ça que je peux vous dire.
Il a parlé de moustique dans la météo, donc c'est lui.
Voilà, exactement. Il se venge. En tout cas, ce modèle devrait être prêt à utiliser en 2017. Il s'agit du tout dernier modèle adapté à la Polynésie française pour des prévisions immédiates plus précises qui sera adopté l'année prochaine.
On marque une courte pause dans ce journal. On revient, on parlera du cercle des illusionnistes et également de la journée mondiale des droits de l'enfant organisée ce week-end.
Radio 1. Premier sur l'info.
Allez, on reprend ce journal avec Antoine Samoyau et on va parler théâtre avec le Cercle des Illusionnistes qui a été présenté hier soir au scolaire.
Première représentation scolaire hier après-midi devant 190 lycéens de Papara et de Lamenay. Et pendant 1h40 de spectacle, les élèves se sont laissés porter tantôt par l'humour de la pièce, tantôt par ses instants de magie. Il faut dire que le Cercle des Illusionnistes ne raconte pas une histoire, mais trois chemins de vie qui paraissent différents, même très éloignés historiquement et qui pourtant ont beaucoup en commun. Sur scène, ce sont seulement 5 acteurs qui enchaînent des dizaines de rôles, chacun à une vitesse folle. Les changements de personnages se font sous les yeux du public qui pourtant en font totalement abstraction. À l'arrivée, les élèves étaient encore tous sous le coup de la parfaite illusion.
J'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était drôle et intéressant en même temps. L'histoire de la magie et du cinéma en même temps. Et je trouvais que c'était original.
Ah, moi j'ai vraiment bien aimé en fait. Surtout le jeu des acteurs était vraiment bien. Puis la mise en scène, c'est un tout en fait.
Enfin, moi ça m'a beaucoup plu, c'était surtout le mouvement, le changement de décor. Il y avait vraiment tout, la voix, c'était vraiment super le fait de voir tout ça en live. Parce que d'habitude t'as le rideau qui se ferme et ça change. Là c'était vraiment devant nos yeux et c'était vraiment impressionnant et super beau.
Bah, tout simplement magique, si on devrait le définir magique, mais bien au-delà d'un spectacle banal qui nous transporte seulement, on a une véritable dimension historique, parce qu'on a de véritables faits qui sont relatés, mais aussi une dimension biographique au travers de ces personnages qui font revivre la vie de ces, j'ai envie de dire, de ces magiciens.
Ah, la magie, bah, tout le monde aime, du coup, bah, ça nous attire, ça nous a tous attirés, je pense. On a très bien rigolé.
Ils arrivent à passer d'un personnage à l'autre, même quand ils sont encore en train de jouer une autre pièce, ils arrivent à passer dans un autre personnage. C'est vraiment spectaculaire.
Des réactions recueillies par Valentine Bluet.
Un mot de la journée mondiale des droits de l'enfant organisée ce week-end au Faré Tamaho.
Et c'est dimanche que sera célébré le 27e anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. À Tahiti, le Faré Tamaho célèbre l'anniversaire de la ratification de cette convention depuis 2004. Plusieurs centaines d'enfants sont donc attendus dimanche à Faréauté pour une journée festive organisée de 9 à 17 heures. Des enfants accompagnés de leurs parents. Et c'est important puisque si l'enfant a des droits, il revient aux parents le devoir de les faire respecter. C'est ce que nous explique Poehina Chung, psychologue coordinatrice de l'événement au Faré Tamaho.
Ça se passe un dimanche, ça se passe pendant le week-end, donc c'est un moment de partage, de détente et de convivialité. Toujours est-il que nous cherchons à travers cette journée à ouvrir sur un plan beaucoup plus large la conscience des parents en termes de les droits qu'ont leurs enfants et les devoirs qu'ont les parents de les faire respecter. Chose qui, je pense, tend à se diluer de nos jours.
Et le programme de la journée est à retrouver sur la page Facebook du Fallet Tamaho.
Et puis on va terminer par les frérots de la Vega en concert hier soir à Nouméa.
Effectivement, 4000 personnes étaient réunies hier dans l'arène du sud de Païta en Nouvelle-Calédonie pour applaudir les frérots de la Vega et les deux artistes qui ont littéralement surfé sur leurs fans grâce à deux bateaux gonflables. Vous pouvez retrouver la vidéo assez impressionnante de cette performance sur le site de Radio1.pf. Je vous rappelle que les frérots de la Vega, ils seront en concert demain soir, Place Toatin, un événement Radio 1, et qu'ils arrivent ce soir à 19h à l'aéroport. Si vous êtes fan, n'hésitez pas à y aller. Vous pourrez approcher les frérots de la Vega.
Ils seront demain matin sur Radio 1 entre 11h et midi.
Effectivement, avec Alexandre Talercio et Gibi. Il est 12h12. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On passe tout de suite à l'écoute de votre répondeur sur Radio 1 et Thierry FM.